session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu, conférence spirituelle, foi et intelligence, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet 2001 à Saint-Judas.
Hier, je vous ai parlé de la foi de façon générale en Dieu. Notre foi est une foi chrétienne. Nous adhérons à Jésus comme l'envoyé du Père pour nous sauver. Cette adhésion de foi implique de croire au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Voyez, la foi dans le Christ est en même temps une foi dans la très sainte Trinité. C'est par le Christ que nous adhérons à Dieu un et trois. Un dans son être, il est absolument simple, l'être de Dieu. Il est un et il y a trois personnes en Dieu. Nos petits calculs habituels d'arithmétique, de mathématiques, craquent. Notre habitude de logique craque. Dieu est un et les trois. Et il envoie son Fils, Jésus, pour s'incarner en Marie. Vous voyez, tous ces mystères qui s'unissent et qui explique notre foi chrétienne. C'est le Fils éternel du Père qui nous est envoyé par le Père, qui s'incarne en Marie. Du mystère de la maternité divine et qui nous sauve du péché, de la faute originelle. Notre foi chrétienne est donc une foi en la Trinité des personnes, le Dieu trois fois saint. C'est important de comprendre que la sainteté est personnelle en Dieu. Elle doit être personnelle en nous. L'Église est sainte, mais c'est parce qu'elle a des saints, des personnes qui sont saintes. Parce qu'il y a Marie. Marie est sainte dans sa personne, comme Mère de Dieu. Et dans nos vies, la sainteté est personnelle. La sainteté de chacun d'entre nous est différente. On n'a pas une sainteté commune. Dans l'Église, c'est l'assemblée des saints. C'est très important pour comprendre ce que c'est que le bien commun dans l'Église. Vous comprenez? Si la sainteté est personnelle, nécessairement, c'est la sainteté de chacun d'entre nous que Jésus réalise en nous, que le Père réalise en nous. que Jésus réalise en nous par le mystère de la croix. Et nous avons une grâce sanctifiante qui nous sanctifie dans notre personnalité la plus individuelle, la plus personnelle. Il y a quelque chose de commun, c'est sûr. Ce quelque chose de commun, c'est que tous nous tendons vers la béatitude, la vision de Dieu, la vision personnelle de Dieu. Il n'y a pas de vision béatifique commune. Je me souviens, il y avait un père une fois qui avait des idées curieuses comme ça, et qui disait ce serait tellement agréable qu'il y ait une vision commune. On soit tous, vous voyez, comme au cinéma, hein, il y a une vision commune. Dieu se donne à nous une vision. Non. La vision du Père, du Fils et de l'Esprit Saint est ce qu'il y a de plus personnel en nous. Et en même temps, ce sera la béatitude pour chacun d'entre nous. C'est ça le mystère. Un mystère, il fait que ce qu'il y a de plus personnel est en même temps ce qu'il y a de commun. Pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre de ce même mystère. Alors, notre foi chrétienne, elle est ce que nous recevons du Christ, qui est notre tête et nous les membres, qui est le tronc et nous les branches. C'est ce, les deux grandes visions du Christ avec toute la communauté ecclésiale. Nous sommes unis au Christ comme les membres sont unis à la tête. Nous sommes unis au Christ comme les branches sont unies au tronc. C'est la même vie. C'est ça qui est très étonnant. Nous ne sommes pas Dieu, puisque nous sommes une petite créature, dépendante totalement de Dieu. Et au point de vue de la vie, nous avons la même vie que Dieu. Déjà, dès cette terre, mais elle est cachée, cette vie. Elle se réalise dans la foi. Elle se réalise dans l'espérance. Elle se réalise dans l'amour. Notre foi chrétienne est une foi personnelle qui se réalise dans la contemplation. Nous devons contempler Dieu. Tout chrétien doit être un contemplatif. Tout chrétien. Ce n'est pas une spécialité pour les religieuses contemplatives. Ça doit être pour tout chrétien. Parce que, par la grâce, nous devenons fils de Dieu. Enfant bien-aimé de la très sainte Trinité. Il y a la même vie, le même sang, qui fait que nous sommes intimement liés à la vie du Christ. Et si notre âme est créée par Dieu, notre âme humaine est créé directement par Dieu, par le Dieu trinitaire, dans son unité. Nous sommes créés par son bon plaisir, par son amour absolument gratuit. Dieu nous aime gratuitement en nous créant. Et nous sommes appelés à être baptisés, nos parents croyants nous ont conduits pour être baptisés tout jeunes. Si nous sommes d'une famille non chrétienne, il a fallu ainsi du temps pour pouvoir comprendre de demander le baptême et recevoir de Dieu ce qu'on appelle la grâce sanctifiante qui vient transformer notre âme. La grâce sanctifiante est reçue dans notre âme, qui vient transformer notre âme et qui fait que nous devenons enfants de Dieu. Alors, comprenez bien, il y a comme une double paternité de Dieu. Dieu, en créant notre âme spirituelle, notre âme capable de connaître intellectuellement, d'aimer spirituellement, notre âme, parce qu'elle est orientée vers une fin qui ne peut être que Dieu. La seule fin pour un être spirituel, un être qui possède l'intelligence et la volonté, le seul terme de cette vie ne peut être que Dieu. Nous sommes créés par Dieu, pour Dieu. Et cette création qui nous fait créer par Dieu et pour Dieu est transformée par la grâce, par l'action de Jésus, mort sur la croix, pour nous sauver. Pour nous sauver, il nous donne la grâce. La grâce est une participation à la nature divine. Nous recevons la grâce pour être transformés de l'intérieur et que pour être fils de Dieu. Et nous pouvons alors aimer Dieu et le connaître et l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout nous-mêmes. Par la grâce, par la création, Dieu, créateur d'une âme spirituelle, de notre âme spirituelle, n'est pas seulement créateur, mais en même temps Père. C'est très important de regarder ça. Nous le verrons au point de vue philosophique, parce que déjà, au point de vue philosophique, on doit le voir. On doit comprendre ce que c'est que le Créateur et ce que c'est que Dieu Père. Comme Créateur, Dieu communique l'être. C'est le propre du Créateur, c'est de communiquer l'être. pas l'être de Dieu, mais l'être. Dieu est l'être parfait. Et il est divin parce qu'il est l'être parfait, parce qu'il est le premier être. Il peut, par son désir de créer, de communiquer notre âme. Notre corps a été formé par nos parents, en notre mère. Notre corps n'a pas été créé directement par Dieu. Dieu, quand il crée l'être, à la différence de nous, quand nous sommes artistes, nous réalisons des relations nouvelles. Mais nous ne touchons pas l'être. Dieu, quand il crée des êtres nouveaux. Et ces êtres nouveaux ne vivent que dans le devenir. Toutes les réalités terrestres, matérielles, elles n'existent que dans le devenir. Dieu crée des êtres vivants. Dieu crée des êtres spirituels. C'est toujours l'être que Dieu crée. C'est pour ça que Maître Eckhart, qui est un grand théologien dominicain, a dit « Dieu ne crée pas la vie ». Alors, c'est dangereux de dire ça comme ça, mais c'est parfaitement vrai. Mais c'est dangereux de le dire comme ça, parce que très souvent on comprend mal. Dieu crée des êtres vivants. Alors vous allez dire, c'est la même que créer la vie. Ah non, il crée des êtres vivants. En chacun d'entre nous, autre chose est notre être, autre chose notre vie. C'est sûr, notre vie humaine sera brisée par la mort, mais nous ne serons pas anéantis. Nous continuerons d'exister dans notre âme spirituelle et notre pauvre corps matériel deviendra un cadavre. Il existera. Un cadavre existe, mais il n'est pas vivant. Vous voyez, dans la lune, il existe des êtres physiques, mais pas vivants, parce qu'il n'y a pas d'eau. Un lieu où il n'y a pas d'eau du tout, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les anciens philosophes disaient que toute vie venait de l'eau. Différence, créer des êtres qui n'existent que dans le devenir. C'est le monde physique. Créer des êtres vivants. Il y a une certaine immanence, peut-être très fragile, chez des êtres végétatifs. Créer des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres en qui leur vie est spirituelle, intellectuelle, affective et aimante. Il n'y a qu'en Dieu où l'être et la vie ne font qu'un. Ça, c'est très important de comprendre ça. Que dans tout être créé, tous les êtres que je vois, que je touche. Il y a une distinction réelle entre leur être et la vie. C'est pour ça que je peux dire que Dieu ne crée pas la vie, mais il crée des êtres vivants. Des êtres en qui la vie existe. Quand je dis que Dieu crée des êtres, ces êtres, en tant qu'êtres, dépendent totalement de Dieu. Vous voyez, l'athéisme philosophe, philosophique, est provenu du fait qu'on a confondu être et vie. On a dit l'homme est un être libre. Est-ce que je suis libre dans mon être ou dans ma vie ? Je suis créé par Dieu dans mon être. Mon être est totalement dépendant de Dieu. Mais Dieu peut créer des êtres vivants et des êtres spirituels. Quand il crée des êtres spirituels, il crée des êtres vivants de vie spirituelle qui ont l'intelligence, la volonté, qui ont donc la possibilité d'être libres. Si je confonds être et vie, Feuerbach avait ça. Je suis obligé de dire, puisque je suis libre, que je ne suis pas une créature. Et donc, Dieu n'existe pas. On ne peut plus comprendre si on ne fait pas la distinction entre être et vie. On ne peut plus comprendre comment un être spirituel peut être radicalement dépendant de Dieu dans son être et être libre dans sa vie spirituelle. Quand vous posez un acte de liberté, vous écoutez ce soir. Vous êtes donc assis sur une chaise librement. Vous êtes un être libre qui écoute. Et vous êtes un être créé, totalement dépendant de Dieu. Il peut y avoir en moi une totale dépendance de Dieu dans mon être. Et une liberté complète, du moins, une certaine liberté dans ma vie spirituelle. Vous voyez, Feuerbach, en identifiant être et vie, dit l'homme est libre, donc il n'est pas créé. Quand il prétend être créé, c'est parce qu'il n'a pas assez d'audace pour être responsable de tous ses actes. Il est libre. Et on a suivi Feuerbach. Toute une série de philosophes ont suivi Feuerbach. En disant, Dieu n'existe pas. Bon, si l'homme a inventé Dieu, c'est parce qu'il pouvait pas être tellement responsable. Alors, il a mis sur Dieu toute sa responsabilité en disant, c'est pas moi, c'est Dieu. Vous savez, instinctivement dire ça, hein. Un gosse, quand il est gosse, qu'il fait une bêtise, il dit tout de suite, ah c'est papa, c'est à cause de papa. Ah c'est à cause de maman. Ah c'est à cause de mon grand frère. Dans la Genèse, on voit très bien, quand Dieu dit à Adam, après sa faute, hein, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, c'est pas de ma faute, c'est Ève. Et quand Dieu dit à Ève, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, c'est pas ma faute, c'est le serpent. On s'excuse toujours, vous voyez, ce qui arrive très souvent en psychologie. On vous dit, c'est pas étonnant que vous avez fait ça, c'est un autre. Parce que vous avez obéi, vous êtes trop dépendant de vos parents. Parce qu'aujourd'hui, on plaide toujours l'indépendance, l'autonomie. On comprend plus ce que c'est que la filiation, être fidèle et être fils, dépendant. On peut être dépendant et être fils, y être parfaitement autonome dans sa vie. Et même souvent, c'est ce qui arrive. Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu au point de vue de notre être nous rend très indépendants vis-à-vis de tous les hommes. Alors là, on touche quelque chose de très important. Je peux le découvrir au plan philosophique et je dois l'affirmer au niveau de la foi. Au niveau de la foi, quand j'affirme l'existence de Dieu, j'affirme que ce Dieu dont j'existe l'existence, c'est le créateur de mon âme. C'est le créateur de tout l'univers. Mais Dieu crée l'univers autrement que mon âme. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Dieu crée l'univers comme un tout. Et à l'intérieur de ce tout, il y a des causalités réciproques, mutuelles. Une chose dépend d'une autre. Dieu crée l'univers dans un certain ordre. Il est dit dans l'Écriture, Dieu ne crée pas le chaos. Dieu crée un univers habitable. Dieu crée la petite terre, au milieu de tous ces astres, avec le soleil et la lune, et toutes les étoiles. Il a créé tout ça. Il a créé tout ça comme un tout ordonné. Et les hommes sont capables, non pas de déranger la lune, pas encore. Il voudrait bien donner un petit coup de chiquenaude. Les hommes ne sont pas capables de déranger la lune, ne sont pas capables de déranger le soleil, ne sont pas capables de déranger les étoiles. Ils le voudraient bien. Non, incapables. Il y a tout un univers stable. Mais l'homme peut modifier l'atmosphère. Ah. La couche d'ozone qui enveloppe la Terre. L'homme peut toucher ça. Et c'est la grande inquiétude des savants. Est-ce que l'homme vraiment, en faisant toutes ces expériences qu'il a faites, ces expériences anatomiques, il ne savait pas la conséquence. Il allait très loin. Il touchait des réalités très profondes. Il désagrégeait ces réalités et il y avait des conséquences inconnues qui continuent maintenant et qui déséquilibre notre univers. Dieu a créé un univers stable. Et l'homme, voulant l'expérimenter à sa manière, a touché certains éléments de notre terre en faisant qu'il ne savait pas très bien les conséquences. En faisant ses expériences anatomiques, l'homme ne pensait pas qu'il y aurait des conséquences si graves. C'est maintenant qu'il y pense. Alors on cache ça. Mais pourquoi la Terre se réchauffe? Ça, on est obligé de le constater. La Terre chauffe. Et la Terre ira toujours plus chaude. Alors, est-ce qu'on pourra encore habiter dans 100 ans ce même univers, dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans? L'homme ne sait pas. L'homme peut détraquer. Il peut s'amuser. Hein. Et quand il pousse la science jusqu'au bout, il fait des victimes. Hein. Les victimes de la science. Alors les victimes de la science sur les pauvres corps humains, ça existe. Et des hôpitaux en Suède où il y a des coins spéciaux, victimes de la science. Alors, on a l'avantage que la victime de la science d'avoir un ticket. Vous avez le droit de finir vos jours dans cet hôpital. Ça vous avance beaucoup. Victime de la science. Vous voyez, Dieu a créé l'univers. Il a créé... Je ne sais pas comment. Je n'ai pas assisté à la création. Vous non plus. Mais si je lis l'Écriture, je vois que le sixième jour, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Comme si Dieu avait besoin de 6 jours pour créer. Dieu ne travaille pas. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait sans travail. Or, on compte la semaine à cause du travail. Il faut bien mettre une journée de repos. Alors, on veut mettre par là le repos que Dieu s'est donné à lui-même, ne créant plus. Mais Dieu a créé l'univers avec un ordre et un ordre. Et dans cet univers, Dieu a créé l'homme. Comment? Je n'en sais rien. Il dit dans un langage symbolique, dans un langage tout à fait particulier, que Dieu a façonné le corps de l'homme. En prenant de la glaise. Mais il n'a sûrement pas fait ça. Hein. Dieu ne s'est pas fait potier. Non, non, sûrement pas. Comment Dieu a créé le corps de l'homme? Depuis qu'il a créé, le corps de l'homme varie, c'est sûr. Il y a des Japonais, des Chinois, il n'y a plus beaucoup de peau rouge. Il y a des blancs, il y a des noirs. Dieu a créé l'homme. Mais Dieu n'a pas créé des différentes races. Dieu a permis à l'homme de se multiplier. Mais le premier homme, alors il y a la théorie de l'évolution qui dit que le premier homme provient de l'animal. On ne peut plus très bien le soutenir maintenant. On l'a soutenu. Darwin a soutenu ça. On ne sait pas comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé la femme. On ne sait pas. Dieu a pris un langage symbolique. Il a créé l'homme, et puis, sans demander la permission à l'homme, en le mettant dans une torpeur profonde, il a créé, à partir du geste du chirurgien, Dieu s'est fait chirurgien, en prenant une des côtes de l'homme, il a fait la femme. Sans demander la permission à l'homme, non, il est créateur, puis il l'a présenté à l'homme. Ben, tout ça, c'est très gentil, mais ça ne s'explique pas. Hein. C'est un langage poétique, symbolique, qui veut exprimer que Dieu est le premier des savants, des premiers des artistes. Vous voyez, c'est très beau que c'est le point de vue de l'art qui a servi à montrer la création. Pas la science, hein, non, l'art. Le potier et le chirurgien. Mais il faut être sûr que Dieu n'a ni potier ni chirurgien. Il n'y a pas de danger. Mais c'est symbolique. C'est que Dieu a créé le corps du premier homme. C'est impossible que le corps de l'homme vienne de l'animal. C'est impossible. À quel moment l'âme serait créée? Alors on devrait dire que l'âme a été créée dans le ventre d'un animal supérieur. Vous croyez que Dieu fait ça? Il ne serait pas père. Confier un petit enfant, tout petit, à un animal. Et le premier homme aurait grandi, et puis quand il aurait grandi, il aurait regardé l'animal qui était auprès de lui. Il a dit, tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon père. Non. Il y a quelque chose en moi qui vient de Dieu. C'est très mystérieux, hein. Notre origine de l'homme et de la femme, c'est cachée en Dieu. La science ne peut pas nous découvrir. Non. Dieu a créé l'âme humaine dans le corps de l'homme. Ça, nous pouvons le dire. Parce que philosophiquement, on peut dire que Dieu n'a pas créé une âme toute seule. Non, il l'a créée dans l'homme. Et quand on voit le développement du tout petit embryon, actuellement, on peut scientifiquement, on a une connaissance assez pas complète, hein, parce que c'est par tranches. Puis on a collé ces tranches, le plus proche possible. Hein, on a montré le continu, alors que c'était du discontinu. Alors du discontinu, on ne crée pas le continu. Tandis que du continu, on crée le discontinu. C'est pour ça que ce sont des approches. On ne connaît pas bien, totalement, parfaitement. Je connais un chirurgien très chrétien, un chirurgien des enfants, des tout-petits, ils sont dans le sein de leur mère, et me poser des questions sérieuses. Peut-on opérer un enfant dans le sein de sa mère? Puisque les organes ne sont pas encore très séparés. Il y a un continu. Alors on risque de toucher. Il y a la parabole, n'est-ce pas? Que le mauvais grain, avec le bon grain, il faut le laisser pousser. Et quand il a poussé, on voit bien la distinction du mauvais grain et du bon grain. Mais dans la semence, on ne le voit pas toujours. C'est une semence. Et c'est vrai, l'enfant dans le sein de sa mère. Il est encore un tout qui de plus en plus se forme. Quand l'âme a été créée, gros problème ça. On sait que l'âme est de Dieu. Quand l'âme a-t-elle été créée? Est-ce que l'âme a été créée dès la conception biologique? C'est ce que soutiennent certains. Saint Thomas ne soutenait pas ça. Il soutenait que l'âme a été créée quand l'embryon était suffisamment formé pour recevoir une âme. Et je crois qu'on peut dire, c'est quand l'embryon a eu un cycle autonome par rapport au sang. Au début, il est totalement dépendant de sa mère. C'est une question que le Saint-Père, dans son encyclique sur la vie, a dit « le philosophe ne peut pas préciser ». Mais en raison de l'apologétique, beaucoup disent « oui, l'âme est créée tout de suite, dès la conception ». Le Saint-Père dit « dès la conception, c'est en vue d'un homme ». De sorte que celui qui arrête, qui fait l'avortement, tue un homme, puisque ce petit était en vue d'un homme. Si on l'avait laissé grandir normalement, il aurait été un homme. C'est sûr que l'âme est créée très peu de temps après la conception. Je ne sais pas, on ne peut pas préciser. Mais on doit dire que dès la conception biologique, tout de suite, le petit embryon, le petit fœtus, est un homme. Parce qu'il est tout entier ordonné à la naissance. Et Dieu aura créé pour lui une âme. À quel moment? Je n'en sais pas. Je crois très vite. Très vite, le petit fœtus a son organisation interne quant au sang. Vous voyez, dans la Bible, il est dit que l'âme, c'est le sang. Il est dit ça. C'est symbolique. C'est sûr, l'âme n'est pas le sang. Le sang n'est pas l'âme. L'âme est spirituelle. Mais c'est symbolique de dire que c'est grâce à l'âme que l'homme a une autonomie. Au point de départ, il est totalement dépendant de sa mère. Totalement. Il ne pourrait pas vivre si on l'arrachait à sa mère. Quand il a une âme, il a une certaine autonomie. Principe d'autonomie. Son âme, principe de vie, principe d'être. On doit avoir le respect de l'embryon, puisqu'on ne sait pas quand l'âme est créée. Et l'embryon est confié à la mère. C'est du reste merveilleux de voir que la première coopération à la création de l'âme, c'est la mère dans la formation du corps de l'homme. La mère coopère avec Dieu créateur. Une véritable coopération. Dieu crée l'âme directement, l'âme spirituelle. L'âme capable de connaître et d'aimer. Le corps, il vient de nos parents. Il est dépendant de nos parents. Il est dépendant de notre mère. Il y a une coopération magnifique de Dieu, de l'homme avec Dieu, de la mère avec Dieu, du père avec Dieu. Cette coopération si intime, si profonde, c'est Dieu qui l'a voulu dans sa sagesse, pour montrer que l'alliance de Dieu avec l'homme, elle est là, dès le point de départ, tout de suite. Et Dieu a voulu que l'homme, que la mère, coopère l'atavisme. Est très extraordinaire. La dépendance du corps de la mère et du corps du petit enfant. Et l'atavisme du père, les deux atavismes. Des enfants ont un front paternel et une bouche maternelle, ou bien l'inverse. On voit bien ça. Tellement l'atavisme est une chose forte dans la formation du corps de l'homme. L'âme créée par Dieu va être, une fois qu'elle est, l'homme est né, une fois que le petit enfant est né, va pouvoir être baptisé, recevoir la grâce. Alors, dans l'ordre de la création, Dieu seul crée, mais demande la coopération des parents, au point de vue de la vie. Les parents ne créent pas l'âme, ils créent un homme qui progresse, qui grandit, ils ne le créent pas, mais il collabore, il coopère. Et dans l'ordre surnaturel, tout de suite, Dieu veut qu'il y ait des instruments. Le premier instrument de la grâce, c'est l'humanité sainte du Christ. Le second instrument de la grâce, c'est l'Église, les prêtres. Les âmes consacrées à l'Église. Dans l'ordre surnaturel, Dieu aime de multiplier les instruments. Dans la création, Dieu est seul qui donne l'être.